quand on regarde les résultats par pays, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir notre rapport et vous aurez les tableaux avec les États membres qui montrent les taux les plus élevés quand on regarde l'expérience de la violence et ou du harcèlement. Mais ce que nous avons observé, c'est qu'il n'y a pas de distribution est-ouest ou nord-sud. Il n'y a pas de vraie distribution pays qui font bien et pays qui font mauvais. Ça n'y est pas dans le rapport. Quand vous regardez les données par État membre, vous allez voir, il peut y avoir qu'il y ait un pays qui est plutôt bien positionné par rapport à la violence et le harcèlement, mais qui, d'un autre côté, a un plus mauvais résultat sur le bullying à l'école ou l'humiliation. Donc, les résultats montrent bien qu'il n'y ait pas de distribution « bon pays » entre guillemets contre « mauvais pays ».
Salut, je m'appelle Colin et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Dans deux semaines, on vote aux élections européennes et pour le moment, on nous annonce que la liste Rassemblement National, portée par Jordan Bardella, sortirait largement en tête devant le parti présidentiel. Alors pour rappel, les députés RN au Parlement européen ne brillent pas par leur soutien à la communauté LGBT+, que ce soit pour inscrire l'homophobie et la transphobie dans les crimes de haine, pour dénoncer les zones anti-LGBT en Pologne, pour dénoncer une attaque homophobe dans un bar gay à Bratislava en Slovaquie, les députés d'extrême droite s'abstiennent systématiquement, voire votent contre. Et ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle que j'ai à vous donner cette semaine. Savez-vous que les LGBT-phobies sont en hausse un peu partout sur le vieux continent ? C'est en tout cas ce que révèle un rapport de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, la FRA, qui a réalisé en 2023 une grande enquête auprès de plus de 100 000 personnes LGBTI+, dans toute l'Europe. 19% des répondants s'estiment victimes de violences LGBT-phobes, et elles étaient 14% en 2019, et l'augmentation est plus sensible encore pour la communauté trans. On en parle aujourd'hui avec Nicole Romain, porte-parole de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Bonjour Nicole Romain.
Bonjour.
Vous êtes avec nous à distance depuis Vienne, en Autriche, où sont situés les locaux de l'Agence des droits fondamentaux de l'UE, donc la FRA, pour Fundamental Rights Agency. C'est une agence indépendante de l'UE, c'est important de le rappeler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, voilà, ce que c'est cette institution, à quoi elle sert ?
L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne est une, comme vous l'avez dit, est une des agences indépendantes de l'Union européenne. Et nous, on s'occupe en fait à défendre les droits fondamentaux de toute personne vivant dans l'Union européenne. Nous contribuons à la promotion et à la protection de ces droits, notamment par rapport au droit de ne pas subir de discrimination fondée sur l'âge, le handicap, l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle, qui est aujourd'hui le sujet du podcast. Et nous partageons des informations fondées sur des données qui sortent de nos enquêtes que nous menons dans l'Union européenne, dont aussi l'enquête sur les personnes LGBTI+. Ça couvre tous les États membres de l'Union européenne, ainsi que les États candidats, l'Albanie, la Macédoine et la Serbie. Quel est le résultat ? C'est-à-dire que nous formulons des conseils d'experts pour les responsables politiques au niveau européen et au niveau national. Donc les responsables politiques, je pourrais dire, et décideurs.
Voilà, alors c'est le troisième rapport sur la question qui est émis donc par cette agence. Le précédent, c'était en 2019 et il y en avait eu un autre en 2012. Vous avez interrogé 100 000 personnes, c'est beaucoup. Est-ce que c'est représentatif ? J'ai vu sur le site de la FRA qu'il y avait 48% des répondants qui étaient passés par l'université et 51% qui vivaient dans des grandes villes.
Bon, en fait, il faut bien dire que l'enquête sur les expériences de discrimination et de harcèlement des personnes LGBT+, c'est une enquête en ligne. Donc, elle est ouverte aux personnes âgées de 15 ans et plus et ils s'auto-identifient en tant que personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, asexuelles, pansexuelle ou d'une autre orientation sexuelle. On inclut aussi les personnes transgenres, cisgenres, non-binaires et d'autres catégories. Est-ce que c'est une enquête représentative. L'enquête est représentative, mais il faut bien dire que pour une enquête qui est menée et réalisée en ligne, pour qu'elle soit représentative, il faut se tenir à certains calculs et méthodologies qui rendent les réponses représentatives de ceux qui vivent dans l'Union européenne.
Est-ce qu'on peut avoir une idée des questions que vous avez posées aux personnes qui ont répondu à l'enquête ?
Les questions que nous avons posées aux personnes, c'est des questions qui concernent leur vie, c'est-à-dire est-ce qu'ils vivent leur orientation sexuelle ouvertement ? Donc, il y a plusieurs questions aux alentours de cet aspect-là. Par exemple, une question, est-ce que vous vous tenez la main dans les lieux publics ? Juste comme exemple. Après, il y a des questions sur leur perception de se sentir discriminé, soit discriminé au lieu de travail ou dans la recherche de travail, ou quand les personnes veulent aller voir un docteur, par exemple. Donc, c'est dans différentes parties de la vie quotidienne. Et il y a diverses questions et c'est séparé par rapport à recherche de travail, au travail, dans des endroits publics, dans le système de santé et à l'école. Et après, il y a aussi des questions sur des expériences de violence, de harcèlement, ainsi qu'aussi des expériences de haine en ligne. Ça en fait partie aussi des questions que nous avons posées dans cette enquête en ligne aux personnes LGBT+.
Et on va en parler, on va ouvrir ensemble ce rapport. J'ai juste une question avant. Le rapport s'intitule « L'égalité des personnes LGBTIQ à la croisée des chemins de points progrès et défis ». Il sort dans un contexte politique très particulier. Hein, je le disais, dans deux semaines, ce seront les élections européennes. Est-ce que vous avez l'impression que la question des droits fondamentaux et plus précisément celle qui nous occupe, la question des droits LGBT+, elle est assez présente dans le débat public dans le cadre de cette élection, Nicole Romain?
Je ne peux pas parler si c'est présent dans les discours politiques, dans les divers États membres. La seule chose que je peux soulever, qu'au niveau européen, il y a eu la stratégie pour l'égalité des personnes LGBT+, qui a été issue par la Commission européenne il y a... Il y a quatre ans. Déjà.
2020, c'était la stratégie 2020-2025.
Oui. Donc en fait, nos enquêtes, peut-être aussi parce que vous m'avez posé tout à l'heure la question, donc qu'est-ce que fait l'AFRA et à quoi ça sert ? Je peux dire que la première enquête que nous avons menée en 2012 a servi à ce qu'au niveau européen, il y aura une stratégie pour l'égalité des personnes LGBT+. En 2012, il n'y avait pas de stratégie. Il y avait un plan d'action. Basé sur les résultats de la première enquête que l'AFRA a menée en 2012, il y a eu le développement au niveau politique pour dire qu'il est important que nous avons une stratégie de l'égalité pour les personnes LGBT+, qui va mettre en avant tout ce qu'il faut arriver à achever jusqu'à 2025. Et c'est là-dedans que se situent les enquêtes de l'AFRA sur les personnes LGBT+. C'est-à-dire que nos enquêtes, avec les résultats que nous avons, sont en gros un indicateur si les mesures prises au niveau de l'Union européenne, au niveau politique aussi de l'Union européenne, ont eu un effet. Les résultats de la dernière enquête, donc de 2023, en gros représentent un paradoxe. D'un côté, nous voyons que la discrimination contre les personnes LGBT+ a légèrement réduit depuis 2019. C'est-à-dire qu'en 2023, il y a plus d'une personne sur trois qui est victime de discrimination dans sa vie quotidienne en raison de son identité de genre.
Baisse des discriminations d'une part, et d'autre part, augmentation de la violence. Je le disais, le taux de personnes LGBTQI+, qui déclarent avoir subi des violences physiques et ou sexuelles, a augmenté de 3 points depuis la dernière enquête de 2019. On passe de 11% à 14%. Il n'y a que dans 3 pays, l'Estonie, la Slovénie et la Suède, que ces violences ont baissé. Est-ce que l'AFRA a une explication, peut-être, de ce paradoxe, si on essaye de l'analyser ?
on livre les chiffres.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on analyse, les chiffres. On donne une analyse de ce qui s'est passé au niveau de l'Union européenne. Et comme vous l'avez dit, il y a une hausse de violence et aussi de harcèlement. Et ce que nous avons aussi observé, c'est-à-dire que la hausse est d'autant plus marquante pour les personnes trans et intersexuées. Ou des personnes LGBT+, qui, par exemple, ont un handicap ou sont ressortissants d'une minorité ethnique ou d'une population ethnique. Donc, on sait qu'il y a certains aspects qui font que ces chiffres-là sont encore plus élevés que si on parle juste de la violence ou de harcèlement pour le groupe entier. L'explication. Plusieurs personnes LGBT+, aujourd'hui, sont plus ouvertes à se montrer en public ou à ne plus cacher leur identité ou leur expression de genre ou leurs caractéristiques sexuelles.
Oui, d'ailleurs, plus de la moitié des personnes LGBT sont out en Europe, selon l'enquête, contre 46% dans le dernier rapport.
Oui. Par contre, ça semble une explication évidente, mais si vous considérez que ça, c'est une enquête, on n'a pas la corrélation entre ces deux chiffres. Donc, en fait, pour faire ce lien de dire que oui, comme on sait que les personnes LGBT+ sont plus ouvertes pour se montrer ouvertement, outing, ça peut augmenter la violence ou le harcèlement. Mais ça, c'est une corrélation que nos chiffres ne donnent pas.
D'accord.
C'est une corrélation que nous pouvons faire dans l'interprétation. Si on regarde les chiffres de la violence ou du harcèlement ou de la haine en ligne, particulièrement si on veut ramener ça à un État membre, il faudrait aussi regarder en fait les statistiques de violence officielle. Parce que la difficulté est aussi là, c'est-à-dire qu'on voit la perception de la communauté LGBT+ concernant l'expérience de la violence et du harcèlement, mais il faut évidemment aussi prendre le contexte national. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de violence générale? Parce que ça peut évidemment aussi se répercuter sur l'expérience de violence de d'autres groupes ou de certaines communautés à l'intérieur de la société.
Le lobby, tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Vous faites le choix dans ce rapport de ne pas classer entre guillemets les pays du plus tolérant au plus intolérant. On peut en tout cas remarquer d'un point de vue franco-centré que la France est un des pays où la perception de la violence anti-LGBT est la plus forte. Et quels sont les autres pays qui pourraient être source d'inquiétude? On a en tête, si on prend des exemples qui datent d'après la précédente étude de 2019, des exemples comme la Hongrie, qui a voté en 2021 une loi anti-LGBT, qui interdit l'accès des mineurs à des contenus évoquant l'homosexualité. On a aussi en tête la Pologne et ses zones anti-LGBT il y a 4 ans. Donc voilà, quels sont les pays qui peut-être pourraient être inquiétants d'un point de vue des droits LGBT, du respect des droits fondamentaux?
Quand on regarde les résultats par pays, c'est-à-dire que vous pouvez ouvrir notre rapport et vous aurez les tableaux avec les pays, les États membres qui montrent les taux les plus élevés quand on regarde l'expérience de la violence et ou du harcèlement. Mais ce que nous avons observé, c'est qu'il n'y a pas de distribution est-ouest ou nord-sud. Il n'y a pas de vraie distribution pays qui font bien et pays qui font mauvais. Ça n'y est pas dans le rapport. Quand vous regardez les données par État membre, vous allez voir, il peut y avoir qu'il y ait un pays qui est plutôt bien positionné par rapport à la violence et le harcèlement, mais qui, d'un autre côté, a un plus mauvais résultat sur en fait, le bullying à l'école ou l'humiliation. Donc, les résultats montrent bien qu'il n'y ait pas de distribution « bon pays » entre guillemets contre « mauvais pays ». Et si on regarde notamment les pays que vous avez nommés dans l'introduction à cette question, vous allez voir que les résultats dans ces deux États membres, en comparaison, ne sont pas particulièrement mauvais sur certains des indicateurs que nous avons recherchés dans l'enquête.
Vous parliez du harcèlement scolaire. On constate en lisant votre rapport qu'il a explosé en passant de près d'une personne sur deux, 46% à l'échelle de l'UE en 2019, à deux personnes sur trois. On est à 67% aujourd'hui. Les chiffres en France sont comparables. Ils sont même un petit peu plus tranchés. Ça, pareil, comment on l'explique ? Moi, je vais encore faire une corrélation. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'ai envie de le mettre en lien aussi avec l'explosion de la haine en ligne qu'on observe notamment en France. Vous en parlez aussi dans le rapport. On a parlé, nous, dans notre émission mardi, de cette explosion de la haine en ligne et aussi d'une diffusion de discours complotistes qui allait avec. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ?
Encore une fois, je reviens par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ces chiffres sont très parlants. Mmh. Évidemment, on a aussi l'enquête montre aussi que dans un grand nombre des États membres, le sujet de l'orientation sexuelle ou d'identité du genre est traité de manière beaucoup plus ouverte dans les écoles. C'est-à-dire que les données parlent aussi dans ce sens-là. Et en même temps, je pense, quand on regarde les chiffres qui concernent l'intimidation, l'humiliation ou le bullying à l'école, de nouveau, je dirais qu'il ne faut pas regarder ces chiffres uniquement par rapport à la perception des personnes LGBT+, sans considérer que depuis la dernière enquête, il y a eu aussi une explosion, en fait explosion c'est un mot très très fort, mais il y a eu une augmentation significative de l'utilisation des technologies de téléphonie mobile. Et évidemment, ça présente aussi un contexte. Pensez à 2019. Ça fait que 5 ans, mais si vous pensez à 2012, si vous regardez la distribution de la téléphonie mobile en 2012 comparée à 2023, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même, disons que la perception est que pratiquement tout enfant scolarisé a un téléphone mobile. Je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai pas les chiffres, mais il faut bien prendre ça en compte. Il faut regarder l'évolution de l'utilisation, par exemple, des téléphones mobiles, aussi dans le domaine de l'école, parmi des enfants plus jeunes. Donc là, c'est un contexte général qui se présente aussi, qui peut donner une explication potentielle de ces chiffres-là.
C'est quoi la prochaine étape pour ce rapport ? À qui est-ce qu'il est envoyé ? Est-ce qu'il y a une institution qui va s'en emparer ? Qu'est-ce qui va en découler ? Voilà, qu'est-ce que vous savez des suites qu'on va donner à ce rapport ?
Les suites, bon, je l'ai dit juste à l'instant, c'est-à-dire qu'une des suites, c'est que ce rapport donne les données pour la stratégie de l'égalité des personnes LGBT+. Donc, l'objectif est évidemment, avec ces données-là, qu'il y aura une suite de cette stratégie en 2025. Ça, c'est aussi l'objectif du côté de l'agence. Ça, c'est un objectif qui... Bon, oui, c'est difficile, on va avoir les élections d'ici 2 semaines. Mais ça, c'est un des objectifs. Après, ce que nous savons, c'est que nos résultats... En gros, jusqu'à cette année encore, on sait que les résultats de l'ancienne enquête ont été utilisés par des organisations non gouvernementales, par des politiques ou des décideurs dans des États membres. C'est-à-dire qu'on donne ces données, on donne nos recommandations, qui sont bien définies aussi dans ce rapport, c'est-à-dire qu'ils s'appellent les avis de l'AFRA. Et en gros, on les donne sur la table de ceux qui décident et qui doivent faire la politique. Et par rapport au niveau de la Commission européenne, on sait que ces données-là sont très valorisées et prise en compte dans le développement des politiques futures sur l'égalité des personnes LGBT+.
Vous l'avez rappelé, les élections européennes, c'est donc dans 2 semaines. Quel peut être le rôle de l'Europe dans ce contexte d'augmentation des violences qu'on a évoqué aujourd'hui ensemble ?
Toutes les institutions européennes sont tenues à valoir et à protéger les traités de l'Union européenne, y compris tous les droits qui sont stipulés par la Charte des droits fondamentaux. Donc ça veut dire que le principe de la non-discrimination est un principe de base qui est ancré d'une partie dans les traités de l'Union européenne et d'autre partie aussi, évidemment, dans tous les États membres de l'Union européenne. Ce qui veut dire, c'est que l'Union européenne, donc toutes les institutions, la Commission, le Parlement européen, le Conseil, ainsi que les États membres, sont tenus à faire valoir ce principe de non-discrimination basé sur des raisons différentes, y compris l'orientation sexuelle. C'est-à-dire que la discrimination contre des personnes LGBT+, ne devrait pas exister en Europe. Ça, évidemment, c'est une vision idéaliste. On sait que tout au long de l'histoire, il y a toujours eu un objectif idéal, on pourrait dire, vers lequel nous travaillons. C'est des standards, c'est des normes, mais on sait aussi que ces normes-là sont souvent rompues. Et donc, l'obligation est évidemment des politiques et des décideurs de trouver des mesures pour s'assurer que les droits de toute personne vivant dans l'Union européenne soit maintenu et les droits fondamentaux soient protégés.
Eh bien, merci beaucoup, Nicole Romain, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes donc la porte-parole de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Oui.
Et merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à mettre des étoiles aussi sur les applications de podcast. N'oubliez pas non plus d'aller donc voter le 9 juin, c'est important, ou de faire une procuration si vous n'êtes pas disponible. Ça se fait très rapidement en ligne, il n'y a même plus besoin de se rendre en mairie. On se retrouve vendredi prochain et d'ici là, on se suit sur Instagram @lelobbyrcp. À bientôt.
À bientôt.